sont là. Allez-y.
Merci. Avant toute chose, Amis sociaux de Paris, d'abord, bravo et merci pour le travail que vous faites. Je trouve ça absolument enrichissant. Et donc, moi, je suis venu chercher aujourd'hui des idées. Des idées. J'écoute depuis ce matin, j'écoute et j'entends. J'ai quand même une question qui me paraît transversale dans toutes nos activités. C'est comment intégrer et faire reconnaître un métier qui, depuis 15 ans, n'est pas reconnu, voire même 20 ans. C'est la notion de médiateur. Médiateur en santé publique pour certains, médiateur interculturel pour d'autres. Le thème de médiateur, on l'utilise tout le temps. La loi de modernisation, donc dans son article 90, met en valeur deux métiers qui, pour l'instant, sont un peu encore en périphérie. C'est l'interprétariat d'un côté et la médiation, quelle qu'elle soit. Et là, je trouve qu'il est important qu'avec le travail que vous faites, vous, autour de l'intégration de médiateurs pairs, qu'on puisse se raccrocher à tous ceux qui font le même travail ailleurs. Quand j'étais dans les groupes en matière d'hépatite, on me dit, tiens, il nous manque des médiateurs pour donc, des médiateurs pairs. En matière d'alcool, il nous manque des médiateurs pairs. Donc, ça veut dire qu'en réalité, dans chacune de nos métiers, il y a un manque en matière de médiation. Que peut-on faire de manière synergique pour faire, à terme, reconnaître le métier de médiateur dans chacun de nos métiers? Ça me paraît absolument indispensable. Voilà, c'était un plaidoyer plus qu'une question.
D'accord. Tu veux dire un mot sur les médiateurs Non, c'est pas ça. Ok, on prend une autre... Il y avait une demande de parole. J'ai vu des doigts qui se... Là-bas, voilà. Il y a là-bas. Oui. Ah oui, pardon, il y a quelqu'un ici. Déjà.
Je vous en prie, pas de souci.
Allez-y, pardon, excusez-moi.
Donc, bonjour. Donc, Brice Morales, DRJSCS, Bourgogne-Franche-Comté. En fait, voilà, nous sommes très intéressés par ce dispositif. On aimerait beaucoup le déployer. J'avais une question centrale d'un point de vue opérationnel. Premièrement, est-ce que sur la modalité de prise en charge, c'est-à-dire que vous avez évoqué qu'il y avait trois prises en charge différentes, celle qui est subsidiaire, celle qui est mixte et celle qui est dominante, est-ce que c'est un schéma récurrent, c'est-à-dire est-ce qu'on commence plutôt par une prise en charge où l'équipe pluridisciplinaire intervient majoritairement pour passer ensuite, pour finir sur une prise en charge plutôt subsidiaire dans le cadre des 24 mois, ou pas du tout, il n'y a pas de profil type? Et l'autre question, c'est dans le cadre justement de l'accompagnement des personnes, est-ce que vous avez repéré, d'un point de vue opérationnel, des écueils qu'il est vraiment nécessaire d'éviter pour que, justement, l'accompagnement soit un succès, en fait?
Il y a une demande... Ouais, vas-y, Christophe.
Pour vous répondre, sincèrement, les quatre sites, je pense qu'on est assez d'accord, on est à diagnostic. On ne fait pas de pronostic sur qui que ce soit. Du coup, on avance plutôt en mettant, en mobilisant les gens dans l'action. Et après, on verra. Mais surtout, 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 ne pas avoir de pronostic pour les gens, parce que c'est leur couper la liberté de pouvoir être quelque chose à un moment donné.
Il y avait une question aussi dans ce que vous demandez sur est-ce qu'il y a finalement un suivi classique? Est-ce qu'il y a des étapes classiques ou pas, Olivier, peut-être?
Alors, en fait, ce qui est dit aussi depuis ce matin, c'est qu'on a suivi un modèle. Et un des principes du modèle, c'est une VAD par semaine. Donc, de fait,
visite à domicile,
au moins une par semaine et autant que de besoin. Ça veut dire que s'il faut aller 3 fois, 4 fois, 5 fois au logement ou voir la personne dans la rue ou là où elle est, en tout cas, on va y aller. Avec ce principe que plus il y a des besoins, plus on y va. S'il y a moins de besoins, on y va quand même. Et si on repère qu'il n'y a pas forcément de besoin, on parle d'accompagnement médical, on parle d'accompagnement social, on parle d'accompagnement loisir, la VAD, ça peut être, on va à la piscine. Et on peut aller à la piscine toutes les semaines. On prend aussi du bon temps, enfin, c'est pas du bon temps, c'est on accompagne la personne là où ça va bien. Et c'est bien souvent, alors, dans les établissements, en tout cas ceux que j'ai fréquentés, on est un peu branché sur ce qui ne va pas bien. Mais au plus on a un contact avec les gens quand ils vont bien, au meilleur est le contact et au mieux les gens continuent d'aller. Donc c'est pas parce que la personne va mieux qu'il faut moins la voir. Ceci dit, au fil du temps, la personne à un moment, effectivement, elle va finir par voler un petit peu de ses propres ailes. À Maria qui est avec nous aujourd'hui, on ne va pas forcément la voir toutes les semaines. On va distancier un petit peu les accompagnements, les visites au domicile. Il y a des gens aujourd'hui sur les locataires lillois qu'on ne voit plus qu'une fois par mois, par exemple. Mais ils savent qu'ils peuvent nous joindre. On est joignable H24 sur le téléphone. Alors, pas pour les urgences, parce que pour les urgences, c'est les pompiers et la police. Mais en tout cas, si ça va pas, si ça va moins bien, on est joignable.
Oui, il y a une permanence, en fait. Voilà. Avec un numéro de téléphone, il y a une permanence. Il faut savoir aussi qu'un chasseur d'abord a développé ses cartes. Ils ont des cartes avec le numéro, les numéros utiles, l'adresse mail, tout ce qui suit. Voilà, quoi.
Une carte de visite, oui.
Voilà.
Et puis, eh bien, merci beaucoup, François.
Pardon, juste pour compléter un petit peu ce que tu disais, Olivier, ce qui est important pour nous, quand même, dès le départ, c'est d'essayer d'orienter la personne vers l'offre habituelle et du coup, le système existant. Donc, on ne va pas assurer, en tant que, par exemple, travailleur social, on ne devient pas référent social de la personne. On a Angela qui est dans notre équipe, elle ne devient pas le médecin traitant des personnes. On essaye au maximum, du coup, d'orienter sur ce qui existe dans la ville et tout ça dans l'idée de développer l'autonomie et de faire en sorte qu'à terme, on puisse un petit peu espacer les rencontres et quand même que les personnes n'aient plus besoin de nous, si c'est possible.
Mais sur le principe, si les gens ont besoin d'avoir un médecin traitant et que le médecin ne va pas se déplacer dans le squat parce que la personne n'est pas encore logée, c'est le médecin d'équipe qui peut devenir le médecin traitant à un moment. C'est l'éducateur ou le travailleur social qui peut, pendant un temps, prendre le relais de l'assistante sociale du CMP ou de l'assistante sociale du TPAS pour faire avancer le dossier. Et puis, à un moment, quand la personne elle est OK, on prend la bagnole, on va jusqu'à la mairie et on fait les démarches. Et on y va une fois, on y va deux fois, on y va trois fois. Puis, à un moment, la personne pourra peut-être y aller toute seule.
OK. Il y avait une intervention là-haut. Voilà.
Oui, je suis... Ça marche ?
Très bien.
Je suis Maria Andrius, je gère un dispositif d'appartement de coordination thérapeutique classique à Juvisy-sur-Orge dans l'Essonne. D'abord, je voudrais dire que je trouve ce dispositif, dont j'avais déjà entendu parler, extrêmement intéressant et novateur. Je voudrais poser une question à Christopher, locataire ou résident, je ne sais pas comment vous les appelez exactement. Résident. À vous.
Locataire.
Locataire. Voilà, je voulais vous poser cette question. Peut-être qu'avant, effectivement, de bénéficier d'un chez soi d'abord, vous avez peut-être déjà été dans d'autres structures.
Bien sûr, en fait, moi, à l'heure actuelle, en fait, j'ai connu la rue à 16 ans.
D'accord.
Là, j'en ai 30. C'est que à 16 ans, c'est personnellement, tu ne peux pas rentrer dans des centres d'hébergement, tu ne peux pas rentrer au point de repère sur l'île, tu peux... Bref, c'est tout un système. Et en fait, je montais sur mon identité pour accéder aux douches, voilà.
Et après, plus tard, quand vous avez été donc majeur, est-ce que vous êtes allé dans des centres d'hébergement ?
Ah oui, oui.
Oui. Et donc, pour vous, justement, puisque vous êtes un témoin un petit peu nouveau, dans la mesure où c'est un dispositif quand même très récent qui vient à peine d'être pérennisé.
J'ai attendu 5 ans avant.
D'accord. Qu'est-ce que ça vous apporte par rapport aux hébergements classiques où vous avez pu aller en plus?
Moi, personnellement, ce qui est bien, c'est que déjà, je n'ai pas coupé les liens avec ce qui est la Beige, l'hôtel social, tout ce qui suit. J'ai, vers 23 ans, j'ai commencé à les respecter comme il se doit. Et en fait, maintenant, à l'heure actuelle, l'armée du salut, ils ne me voulaient même plus parce que j'avais cassé le plat sur le directeur. Bref.
Ça se fait pas.
Voilà, avant j'étais violent, je savais pas me canaliser, comme je disais, j'acceptais pas ma maladie et maintenant je l'accepte et tout va bien, quoi. Et après, personnellement, la Belgique m'ont toujours bien accueilli, même si à des fois c'était un peu risqué. Dès que tu connais la cité administrative, c'est des lits de camp, mais voilà, quoi, t'as pas le choix, faut dormir. Je préfère dormir sur un lit de camp que par terre sur un carrelage qui fait moins 10 degrés, quoi. Et heureusement qu'ils étaient là, ces gens-là. Comme le SAMU social.
Oui,
le SAMU social aussi, qui donne des duvets, qui donne des sandwichs. Il y a aussi Maïus. Il y a plein de personnes, en fait. En France, tu peux pas mourir de faim. C'est impossible. C'est impossible.
Mm. Ça fait longtemps que vous êtes locataire, donc, dans chez soi d'abord.
Moi, ça va faire peut-être un an.
D'accord.
Bientôt un an. Bientôt un an.
D'accord. Okay. Merci. J'aurais d'autres questions, mais comme j'en ai beaucoup, peut-être qu'elles vont être posées aussi par d'autres.
Je ne sais pas s'il y a... Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Je crois qu'il y avait une intervention ici, voilà.
Oui, bonjour, Patrick Lechaud, chercheur dans le champ du travail social et de l'intervention sociale. Quelques-uns d'entre vous avaient déjà donné peut-être des éléments de réponse, mais je voulais quand même poser cette question. En quoi cette expérience modifie pour vous la pratique du métier ? Qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui est différent d'avant ?
Je veux bien faire une petite réponse, peut-être les collègues aussi. Déjà, la première différence, c'est la rencontre de plusieurs métiers, en fait. Donc, c'était quand même une rencontre avec des métiers qui, jusqu'alors, ne se parlaient pas ou se parlaient peu, c'est-à-dire le métier de la psychiatrie et celui du champ social. Déjà, c'est la première grande différence. Et à ceci se rajoute le métier de l'habitat, où on est encore dans une autre culture, on est encore dans d'autres paradigmes, etc. Donc ça, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est vraiment le sens de la coordination qui est vraiment le plus adapté, parce que c'est en permanence, donc comme ça, vous passez d'un champ à l'autre et d'un métier à l'autre, donc vous commencez à parler différent. C'est intéressant, tout à l'heure on se posait la question comment on vous appelle, c'est-à-dire que dans ces métiers-là, on ne va pas appeler les personnes qu'on accompagne de la même façon. Dans le champ de l'habitat, vous allez effectivement avoir souvent le mot résident, locataire. Dans le champ de la psychiatrie, ce sont des patients ou des clients, ça dépend. Et dans le champ du social et du médico-social, ce sont des usagers. Donc déjà, la première étape, c'est qu'il a fallu adopter un langage commun. Ce qui n'est pas rien, puisque au niveau des formations réciproques de chacun, en tous les cas, si on sort avec un diplôme de travailleur social aujourd'hui, jamais de la vie on va parler une personne accompagnée, locataire ou patient. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et la deuxième chose, c'est que cette pratique-là permet enfin de donner du sens donc à la loi de 1975, puis à celle de 2002 et puis celle de 2005. C'est-à-dire que le fameux choix répond à toutes les questions de comment on met la personne au centre de son projet, quoi. Voilà. Donc il y a vraiment là, du coup, toute la place qui est laissée à la personne accompagnée. Ça veut dire aussi que dans le cadre de la multiréférence, il y a aussi... on va dire un équilibre des places. Le professionnel n'est plus dans sa mission de prise en charge, donc il n'est plus obligé d'être supérieur à la personne qui le reçoit, ce qui fait que peut-être on a moins envie de lui casser le plat sur la tête. Et donc du coup on est voilà, c'est vraiment très 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 différent quand même à ce niveau-là. Après je vais arrêter parce que peut-être que d'autres collègues veulent dire des choses. Ouais.
Peut-être en complément. Je suis coordinateur aussi dans l'équipe illoise et au moment du recrutement, je présente le poste en disant qu'en général, c'est un tronc commun de mission, qu'on soit psychiatre, qu'on soit médiateur, qu'on soit infirmier, travailleur social, on va tous faire de la vaisselle, on va tous nettoyer, curer des toilettes, on va tous se retrouver en mairie pour faire la queue, pour faire une carte d'identité, remplir des papiers, etc. Par contre, le médecin généraliste, quand on va monter un meuble, c'est celui qui sera peut-être le plus attentif au fait que ah bah tiens, j'ai mal au dos aujourd'hui, j'arrive pas à lever les bras, ou moi éducateur, je vais renvoyer peut-être sur une compétence médicale que là, le médecin il est déjà là et il va pouvoir introduire en fait sa compétence à partir de l'activité du quotidien. Pour exemple, Chantal à Lille, elle n'avait pas de médecin traitant depuis je sais pas, une dizaine d'années. Il a fallu que le médecin de l'équipe plante des bulbes de tulipes avec elle pour qu'il y ait une relation qui se fasse. Donc on a vraiment un tronc commun qui est le vivre au quotidien. Et chacun avec nos lunettes de professionnels, je ne parle pas de costume parce que justement on n'a pas de blouse, on n'a pas d'habits spéciaux, mais chacun avec son regard va pouvoir avoir une lecture de la situation différente et complémentaire. On a des réunions quotidiennes à travers lesquelles on se donne des informations, on se diffuse de l'information. Le multiréférencement, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas référent d'une personne, mais c'est l'équipe qui est référente. Et du coup, cette semaine, c'est ma collègue qui est allée voir quelqu'un, et la semaine prochaine, ce sera peut-être moi, mais comme ça, je sais ce qui s'est passé, et je vais pouvoir avoir un... il va y avoir un continuum dans la manière d'agir. C'est pas mes outils d'abord. C'est qu'est-ce que l'autre sait faire ? Je vais d'abord utiliser les forces de l'autre avant d'apporter mes outils. Et c'est vrai que c'est un peu un changement de paradigme, dans le sens où, oui, j'ai une formation, j'ai un gros bagage, j'ai un avec un gros sac à dos de compétences, et au final, c'est pas moi qui vais décider de ce que je vais utiliser. C'est la personne qui va prendre dans les compétences de l'équipe ce qui lui paraît le plus adapté. Quitte à ce que ce soit de laisser erreur, mais c'est la personne qui va choisir. Et c'est pas moi qui dis, tiens, c'est comme ça qu'il faudrait faire.
Ok. Je sais pas s'il y a une autre intervention. Garde, enfin... Oui, il y avait une... Ah, alors là, et puis après en haut. Après, il y a une dame en haut, Emmanuel.
Alors, vous avez parlé de management participatif, que bon, ça change le paradigme. Je voulais savoir comment vous faisiez au quotidien. Je suis Lady JB, directrice d'une maison d'accueil spécialisée. Et franchement, travailler en équipe, c'est quand même pas simple. Donc, je voulais savoir si ça avait été une difficulté ou pas du tout, ça coulait de source. Voilà.
Quelqu'un veut répondre ?
Allez, alors, la chance que nous avons eue, nous, c'est que, en fait, comme le disait Olivier, c'est que nous avons pu recruter l'équipe autour du projet. Donc déjà, ça veut dire que vous partez avec des gens qui ont envie de changer de paradis, des gens motivés pour faire autrement. Donc effectivement, c'est autre chose. Donc ça, c'est et là, pour les équipes qui vont se constituer, effectivement, ça va être totalement différent pour des équipes que l'on va transformer avec des équipes que l'on crée de toutes pièces, c'est sûr. Après, le management partagé, effectivement, c'est comme tout à l'heure, je disais, il appartient plus au monde de l'entreprise qu'au monde du médico-social. Donc effectivement, c'est la fin de la pyramide. Et c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué parce que tout le système est organisé dans notre secteur un peu comme ça. Et que du coup, introduire ces nouvelles notions, encore une fois, c'est des notions qui sont plus anglo-saxonnes que franco-françaises. Donc l'avantage que nous avions, c'est à la recherche que nous le devons, parce que nous avons pu à la fois expérimenter. Et puis, ça a été théorisé au fur et à mesure avec des allers-retours, etc. Donc, pour le management partagé, pour les équipes, tout à l'heure, je disais que c'était important la coordination et le partenariat avec les autres. Mais il est important aussi de penser à l'accompagnement, c'est-à-dire de l'accompagnement plus de type coaching que de type supervision. Hein. Je ne vais pas me réunir pour dire où j'ai mal, mais je vais me réunir pour ne pas avoir mal. Ce n'est pas tout à fait pareil. Voilà. Donc effectivement, c'est des pratiques nouvelles. Par contre, il y a énormément de sources, donc plutôt, c'est vrai, en Europe ou dans la partie anglo-saxonne, et plutôt dans le champ de l'entreprise. Mais après, c'est tout à fait possible et être applicable dans le champ du médico-social. Voilà.
Une intervention.
Bonjour, Sylvia Boulingrin, je suis éducatrice spécialisée et travaille en psychiatrie adulte depuis 27 ans. Et j'avais une petite question par rapport au réseau, au partenariat. Je voulais savoir comment, au niveau des échanges, des informations, donc vous êtes concernés, hein, messieurs, comment vous abordiez le secret professionnel ou le partage, enfin, voilà, par rapport au partage des informations.
Qui veut répondre ? Ah ben Christophe, et puis après peut-être Angela ou...
Ben, de toute manière, la majorité des choses, on le fait avec les personnes concernées. Donc à un moment donné, si la personne décide de partager, je ne sais pas moi, un diagnostic, des informations d'ordre médical, tout ça, ça pose pas vraiment de problème, puisque on centre vraiment tout par rapport à la personne.
Quelqu'un d'autre peut-être veut dire un mot là-dessus ?
Il y a quand même, effectivement, vous avez raison, j'ai évoqué des réunions quotidiennes tout à l'heure où on va partager un certain nombre d'informations en équipe. On est sur une base d'informations ou de secrets partagés. Moi, connaître le diagnostic pour travailler, j'ai envie de dire, ça m'intéresse peu. Ce qui m'intéresse au final, c'est comment la personne vit ses difficultés. Et c'est comment est-ce qu'elle souhaite pouvoir les surmonter. Après, que ce soit un trouble ceci ou un trouble cela, fondamentalement, ce n'est pas forcément là qu'est la question.
Ok, il y avait.
Excusez-moi, mais Max, c'est. Bon, moi, je fais partie d'un groupe justement sur le logement. J'anime un groupe sur le logement hein, avec différents partenaires. Et c'est. Alors, effectivement, les personnes ne sont pas présentes dans ce groupe. Bon, ben donc, voilà. Ça, c'est important. Je pense que c'est ce que j'entends. Hein. C'est ce qui m'intéresse le plus. Mais même dans une réunion, moi non plus. Enfin. Le diagnostic, ce n'est pas ce qui m'importe le plus, mais il y a quand même des gens qui sont des partenaires qui se posent des questions parce qu'ils ne sont pas du milieu professionnel où je suis. Donc il y a des tas de questions qui se posent, des peurs, parce que ce sont les peurs hein, aussi qui font que. Donc, et puis le secret partagé, il y a quand même des lois qui régissent tout ça. Donc nous, on se pose encore la question comment faire
sur les réunions avec les partenaires. On va en tout cas essayer d'aborder les choses en déstigmatisant, en essayant justement de ne pas faire peur. Vous dites que le diagnostic, c'est effectivement pas le plus important, mais c'est la manière dont la personne va gérer ses troubles. Dire que quelqu'un se bat contre des hallucinations ou répond à ses hallucinations, c'est dire quelque chose d'elle sans poser un diagnostic. Et du coup, ça permet de faire passer des messages sur le fait que il y a un trouble qu'il est identifié et que la personne, il y a des choses qu'elle ne maîtrise pas et que tout n'est pas de sa responsabilité quand les troubles se manifestent.
Oui, puis surtout, je pense qu'on est convaincu que en fait, on n'a aucun pouvoir de prédiction. Donc, par conséquent, les questions, je vois très bien le type de réunion dont vous parlez, madame. Effectivement, de pouvoir dire, ce monsieur, il a tel parcours, c'est un peu ce qui était dit ce matin aussi. Donc, ça veut dire qu'il va forcément brûler son appartement. Cette dame, elle a tel parcours, ça veut dire qu'elle va forcément pas payer son loyer. Voilà, donc ça n'existe pas. Nous partons du principe que le professionnel n'a aucun pouvoir de prédiction. Que tout le pouvoir qui peut exister, il est dans la personne. Donc ça évite tout un tas de questions. À partir du moment où le professionnel, il redescend et il ne sait pas grand-chose, du coup, il se pose beaucoup moins de questions. Il les pose à la personne et c'est elle qui aura les réponses. Quoi. Voilà.
Une intervention
Nathalie, toujours médecin du monde. Une question sur ce que vous avez mis en place et ce que vous comptez mettre en place pour le développement du programme dans d'autres villes. En matière de comité des locataires, qu'est-ce que vous avez formalisé pour être sûr que en fait le modèle ne va pas être dévoyé comme on sait si bien le faire, c'est-à-dire commencer sur du très participatif et aller vers du très pyramidal, ça on sait faire. Et donc, qu'est-ce que vous êtes mis comme garantie pour être sûr que l'esprit même du programme y continue?
De façon générale, peut-être, on travaille déjà au cahier des charges. Alors, dans le décret, on a intégré un certain nombre de choses. Et puis, surtout, on est depuis maintenant, ça fait 6 mois à peu près, qu'on est en train d'écrire de façon complètement participative le cahier des charges. C'est-à-dire qu'effectivement, on aurait pu se dire, bon, on fait un cahier des charges de façon assez classique, mais on réunit toutes les parties prenantes. On essaie aussi au maximum, sur les sites, de mobiliser les locataires et ça c'est déjà une première garantie d'avoir les points cruciaux qui nous semblent être les éléments qui vont poser les choses. Voilà, donc ce process qui est long est une première garantie et puis après tous les nouveaux sites qui veulent démarrer on leur dit la première chose c'est d'aller voir sur les autres sites et comment eux-mêmes ont. Parce qu'on a tâtonné hein, sur la question de la participation et Pauline en a parlé. C'est aussi, on est nous aussi sur ce principe d'essai-erreur. Enfin, je crois que, bon, vous l'avez bien compris, hein, on n'est pas là pour vous dire on a une méthode. Non, on est là pour dire il y a un modèle et on a tâtonné pour appliquer ce modèle et pour répartir la notion de pouvoir, parce que c'est de ça dont on parle finalement. Hein. Comment on peut au maximum laisser la place à chacun. Donc les sites, après, il y a eu des expériences diverses et variées, bon, de mise en place de comités ou de lieux d'échange, mais ça reste encore des terrains à défricher. Ce qu'il faut avoir dans l'esprit, c'est que c'est pour ça qu'on parlait des valeurs au départ, c'est-à-dire que si on n'est pas tous complètement convaincus de ça, ça ne marche pas parce que, comme tu le dis, le naturel revient au galop. Et comme on a aussi des obligations, on parlait du risque, hein, ce que disent les chercheurs Cali, c'est que l'inconditionnel dans l'entrée, c'est la question après de comment on gère sur le maintien des éléments de risque dont on parlait. Et ça, c'est ça qui nous contraint finalement. Je ne sais pas si vous avez...
On voulait témoigner avec Christopher de ce qui se passe à Lille. Moi, je ne peux pas dire ce qui se passe au niveau national, mais donc on a une assemblée des locataires. Et par exemple, la semaine dernière, enfin la dernière assemblée, il y a deux personnes qui étaient venues de Bordeaux, qui sont en train de, enfin, qui font du chez-soi à Bordeaux, qui sont venus, donc ils ont assisté à l'assemblée des locataires et donc ils sont repartis super contents d'avoir vu ça en disant nous on va créer une assemblée des locataires. Et peut-être que Christophe, tu peux expliquer parce que Christophe est représentant des locataires.
Voilà, en fait, on était quatre sur la liste et en fait, j'étais en majorité sur trois sur les quatre et il fallait les quatre et les quatre ils ont été nommés. C'est au cas où, admettons, on a un malade ou un truc comme ça, on peut toujours directement réatterrir, faire des propositions, aller pique-niquer, aller à Walt Disney, parce que peut-être Walt Disney m'a dessiné, vous voyez ce que je veux dire, mais bref, je peux pas en parler plus. Excusez-moi.
Tu voulais dire un mot là-dessus, Christophe,
sur la garantie. Oui, non, juste revenir sur la fidélité par rapport au modèle. Faut savoir quand même que pour travailler au chez soi d'abord, faut pas être tout à fait net. Hein. Faut avoir une petite case en moins et se l'accorder. Et puis parce que vraiment, on fait des choses. Il y a une prise de risque qui est quand même considérée. Je dis bien une prise de risque qui est considérée. Et il y a une très grande flexibilité. Et c'est grâce à ça, à cette confiance avec les gens, le fait de les remettre au centre du dispositif, de prendre des risques avec eux, d'avancer avec eux, que des choses se déclenchent, se déroulent, se passent. Voilà. Et ça, c'est vrai que sur un cahier des charges, c'est dur à l'expliquer quand même. Ouais.
Et puis aussi, moi, juste pour rebondir sur ce que vous disiez, en fait, arrivé à cette étape-là, on ne parle même plus de participatif, mais de représentatif, en fait. Là, d'ailleurs, tu t'es présenté en disant « je suis le représentant ». Voilà, c'est une étape encore au-dessus, quoi. C'est même pas la participation du public, c'est la représentativité au sens politique du terme, quoi. Donc, c'est déjà l'étape d'après, voilà.
Et on est parti avec un tout petit avantage, c'est que les gens qui sont avec nous sont des participants à une étude. Ils ne sont pas des bénéficiaires de services.
Enfin,
ils participent, il y a une étude nationale qui se met en place et on va les chercher pour dire, voilà, vous allez participer à une étude. Donc, vous allez tester quelque chose. Mais dans un CHRS, le statut, il est un tout petit peu différent de gens qui viennent demander quelque chose. Là, on est allé les chercher. Donc, dès le départ, ils sont sollicités à un titre un petit peu différent. Et l'idée, c'était aussi du coup de les intégrer dans les différentes réunions et les différentes instances. Et sur chacun des sites, il y avait des comités de gestion qui regroupaient les porteurs, les représentants de l'État, etc. Et des représentants des locataires, en tout cas sur l'ensemble des sites, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et c'est en même temps très rigolo de voir comment la tonalité de la réunion change entre le jour où il n'y a pas encore des locataires et le jour où ils sont là. Les choses ne se disent pas de la même manière.
Alors, dernière intervention, on en prend une et puis après on clôt parce qu'on passe, sur le working first, s'il vous plaît. Mais il y a quelqu'un derrière là,
oui,
qui voulait parler.
Oui, bonjour. Sandrine Arnaud, je suis directrice adjointe d'une association qui est sur Alès, la Clède, dans le Gard, donc c'est une petite ville. J'avais deux questions. La première, c'est à partir de tout ce travail-là et justement la participation des personnes qui sont très, très actives, hein, dans le dispositif, est-ce qu'il a été tiré des des conclusions ou où il y a un projet de travail sur une dimension de prévention pour utiliser voilà, toutes ces connaissances, tout ce savoir pour construire un petit peu des outils de prévention pour éviter ces parcours très difficiles d'errance, de rue, d'exclusion, etc. etc. Voilà. Et là, ma deuxième question, c'est donc le décret qui prévoit donc la généralisation du dispositif norme les choses en disant c'est il y a un minimum de je sais plus c'est 80, 95 ou 100, ouais. 100 ouais. Voilà. Or, dans des petites villes comme Alès, hein, par exemple, dans le Gard, on ne pourrait pas monter un dispositif avec autant de places. Ça n'aurait aucun sens. Ouais. Mais par contre, ça a du sens d'avoir ce type de dispositif avec un nombre de places bien plus restreint. Donc, et en plus, pour le coup, les partenaires, puisqu'il y a déjà tout un travail de réseau et de partenariat qui est assez important, il y a des partenaires qui sont intéressés pour qu'on y travaille ensemble dessus. Et est-ce que ce décret empêchera ce travail-là? Alors, ou est-ce qu'on pourra quand même réfléchir à des projets à la taille des villes?
Alors, je vous propose de garder votre deuxième question pour quand on va parler de la généralisation du dispositif. Je vais l'évoquer dans la présentation. Et puis, bon, je pense que Sylvain Mathieu aussi en parlera. Donc, on garde celle-là. Et pour la première, une réponse courte peut-être?
Oui, super courte, je vais en profiter. Donc, là encore, pour tout ce qui est prévention, en fait, du coup, ça s'appelle plutôt conseil et partage d'expérience. Et c'est souvent les locataires eux-mêmes qui s'en saisissent pour penser à leurs collègues ou à leurs pairs. Et comme donc nous sur Marseille, en fait, une association de locataires, eux, ils ont choisi la rédaction d'un journal. Je vois Isabelle là-bas au fond qui est donc membre de cette association. Et elle peut. Tu veux bien dire un mot sur qu'est-ce que, en termes de prévention, les conseils, tout ça, comment vous utilisez le journal pour les autres, quoi, en fait, qui seraient intéressés pour.
Excuse-moi, donc je prends la parole. On essaye de mettre à bon escient notre journal, en fait, mais on n'est pas toujours d'accord, malheureusement. Ce que je veux dire par là, bon, moi, je suis trésorière depuis l'existence du journal. À plusieurs fois, je représente les cris des saltimbanques. Aujourd'hui, je suis là sur Paris avec vous, messieurs, dames. Et à l'issue de cette journée, on a écrit le journal sur qui parle de la pérennisation. Il est vrai qu'on écrit beaucoup d'articles. On a des laps de temps quand même assez serré, parce qu'il faut comprendre que le président se déplace pas mal de son côté sur Paris. Il a beaucoup de déplacements. Le vice-président donne encore de l'autre côté, dans un autre continent. De mon côté, j'essaie de m'administrer du mieux que je peux, partout et encore, pour être présente, comprendre, entendre, et pouvoir après en reparler de vive voix, donc mémoriser le tout, en pensant quand même que je suis quelqu'un qui est médicamenté, à savoir que je suis schizophrène aussi, malade. Et je suis là pour justement pour que nous, locataires, pour les héberger du chez-soi. Moi, ça fait 5 ans pour moi, 5 ans que je suis emblématique du programme. Et j'aime bien m'immiscer comme ça dans des journées où je rencontre un tas de monde. J'entends beaucoup de choses et tout qui me vient à l'écoute pour pouvoir après en reparler. C'est-à-dire un exemple, rien que au sein de mon immeuble. Au sein de mon immeuble, on va comptabiliser 4 appartements du chez-soi d'abord. Après arrivent les appartements HAS, Habitat Alternatif Social. Donc, il nous arrive, nous, en tant que locataires, de nous réunir, de faire ce qu'on appelle des médiations. Entre nous, locataires. Et une fois par mois, on saisit le chez-soi, on sollicite plutôt le chez-soi d'abord de Marseille, à l'occurrence Sylvie, qui est présente aujourd'hui et encore. Merci Sylvie. Pour médiatiser, pour faire un peu des fois ce qu'on appelle, il faut poser l'épée, quoi. Il faut poser les règles. C'est comme il y a de l'entraide, il y a tout ça, on partage, on discute, on échange. C'est beaucoup de choses. Et je suis très contente d'être présente, je suis très contente de pouvoir, comme je vous disais, essayer de mémoriser au maximum pour rapporter après sur Marseille ce que j'ai pu entendre ici même. Eh bien, je vous remercie tout simplement et puis j'espère une bonne continuation pour tous et surtout je ne revendiquerai pas trop le journal parce que je suis redevable à mon plus grand regret vis-à-vis de ces personnes présentes, d'un journal dont je me suis lancée, j'étais seule sur le terrain, sur la piste. Pendant les journées intersites, j'ai parlé de la sexualité. Qu'est-ce que la sexualité pour une personne malade? On prend des psychotropes, on n'a plus de libido. Voilà. À un moment, on arrête les psychotropes, se réveille la libido. Il faut en parler de ça. C'est comme vous mangez un bon steak à table. Voilà, vous ne pouvez pas toujours rester seul. Il y a l'épanouissement par tous les degrés. Donc, on va parler de la prévention sexuelle, on va parler de tout ça. Mais il faut aussi que nous, acteurs du programme, on tombe d'accord sur la mise en page du journal. Donc, je vous le dis de vive voix, déjà d'une, je vous présente mes excuses les plus aplaties. Je n'ai pas pu écrire tout seul le journal. Parce que même si j'ai 49 ans aujourd'hui, je n'ai pas assez encore de vécu sexuel pour vous raconter tout. Voilà, c'est tout. Je vous passe le micro.
Merci. Bon, voilà, on a eu un exemple sur les questions de prévention, comment elles sont traitées. Je remercie tout le monde pour la table ronde. On va céder la place pour l'exemple du Working First. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Vous avez les contacts de tous les sites sur les plaquettes. N'hésitez pas à les solliciter pour entrer dans le plus dans les détails. Voulez-vous mettre là ou là? D'accord. Donc, on souhaitait, donc, pour cette prochaine séquence... Vous avez un PowerPoint?
Non, on a juste une feuille.
Une feuille.
Oui, ça va être écrit.
D'accord. Alors, je te laisse. Sur cette séquence-là, on voulait faire un petit flash pour parler du Working First, pour que... Attends. Je vais mettre le PowerPoint, mais juste un mot pour dire qu'effectivement, associé au projet, aux différents programmes, aux dispositifs, hein, chez soi d'abord, la question de l'emploi est fondamentale. Voilà. Donc on a un petit peu mordu sur le temps. Voilà, si vous avez...
un quart d'heure
maximum. Voilà, maximum.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Je me présente Raphaël Bouloudny. Donc moi je suis médecin, je travaille sur le chez soi d'abord et sur le programme Working First.